4h à Paris, 2h temps universel, le journal sur Radio France Internationale.
Mathis Limano.
Et il doit durer jusqu'à ce soir le cessez-le-feu en Ukraine décidé par Vladimir Poutine. Une décision guidée par des principes humanitaires, a expliqué le président russe. Côté ukrainien, c'est le scepticisme qui règne. Volodymyr Zelensky assure quand même que son pays respectera le cessez-le-feu et demande de l'étendre au-delà du week-end de Pâques. Deuxième round de négociations indirectes ce samedi à Rome. Américains et Iraniens ont échangé sur le programme nucléaire de Téhéran. Les négociations avancent, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Elles doivent reprendre samedi prochain à Oman. La Tunisie, également à la une, jusqu'à 66 ans de prison. C'est la peine la plus lourde prononcée hier par le tribunal de Tunis lors d'un procès hors norme pour complot contre la sûreté de l'État. Et puis en France, une circulaire demande à certains préfets de ficher les étrangers en situation régulière qui auraient été placés en garde à vue. Vladimir Poutine ordonne donc un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine à l'occasion des fêtes de Pâques. Déclaration ce samedi du président russe qui ordonne à son chef d'état-major d'instaurer cette trêve tout en veillant à repousser d'éventuelles violations du côté ukrainien. Déclaration faite au cours d'une réunion retransmise à la télévision russe.
Guidé par des considérations humanitaires, de 18h ce samedi à minuit ce dimanche, la partie russe décrète une trêve de Pâques. Je donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période. Nous partons du principe que la partie ukrainienne suivra notre exemple.
Du côté de Kiev, on assure que la trêve sera respectée. Volodymyr Zelensky propose même de l'étendre au-delà de dimanche. Le président ukrainien a par ailleurs accusé le Kremlin de violer son propre cessez-le-feu. Les sirènes d'alarme ont retenti hier soir à Kiev et dans l'est du pays. Dans le sud, le gouverneur de la région de Kherson rapporte une attaque de drones russes. Les pourparlers se poursuivent dans une atmosphère constructive entre deux ennemis historiques. Iran et États-Unis étaient de nouveau réunis à Rome ce samedi. Peu de choses ont filtré à l'issue de ces échanges sur le programme nucléaire de Téhéran. Mais côté iranien, on assure que les choses progressent et on se félicite de passer au stade technique des discussions. Les précisions de Daniel Valo.
À Rome, ce sont de nouveau des discussions indirectes qui se sont déroulées avec la délégation américaine dans une salle, la délégation iranienne dans une autre et le chef de la diplomatie du sultanat d'Oman qui faisait la navette entre les deux. Des discussions indirectes mais qualifiées de fructueuses à la fois par les ministres iraniens et omanais des affaires étrangères. Les négociations avancent et nous nous retrouverons la semaine prochaine, ainsi déclaré Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne à l'issue des pourparlers, ajoutant que les discussions allaient entrer dans une phase technique puisque des experts américains et iraniens devraient se rencontrer dès mercredi afin de préparer la troisième session de négociation. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie du sultanat d'Oman assure lui aussi que les discussions progressent et qu'à présent, même l'improbable devient possible. Selon Bader al-Boussaidi, l'accord qui pourrait être conclu entre l'Iran et les États-Unis doit garantir la fin du programme nucléaire militaire de l'Iran et la levée des sanctions prise à son encontre.
Les négociateurs iraniens et américains doivent se retrouver samedi prochain à Oman. Nouvelle journée meurtrière dans la bande de Gaza. Hier, les bombardements israéliens ont tué 54 personnes d'après les secours. Le Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages au moment où les familles d'otages accentuent la pression sur le premier ministre israélien. Elles réclament un accord, même si cela implique l'arrêt des combats. Benjamin Netanyahou a assuré pouvoir ramener les otages sans céder au diktat du Hamas. RFI 3h et 4 minutes en Tunisie. Après le verdict tombé samedi dans le procès pour complot contre la sûreté de l'État, une quarantaine de personnalités jugées, des peines allant jusqu'à 66 ans de prison. Les avocats se mobilisent pour faire appel, mais beaucoup se font peu d'illusions. Ils dénoncent une décision politique, une parodie de justice. Lilia Blaise est à Tunis pour RFI.
Samedi, les avocats de la défense dans l'affaire du complot, plus de 200, accusent encore le coup du verdict prononcé à l'aube. Maître Samir Dilou, qui avait déjà dénoncé les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès la veille, exprime son effarement face à ce jugement expéditif.
Mais ce qui est le plus choquant, c'est pas la sévérité du verdict, mais plutôt qu'il n'y a pas eu procès. Tout n'a duré que 30 secondes. Donc je crois que c'est pas trop de dire. C'est inédit, c'est du jamais vu.
Les peines les plus lourdes concernent ceux considérés comme le cerveau du complot, l'homme d'affaires Kamel El-Tayef, condamné à 66 ans de prison, le militant pro-démocratie Hayem Turki, condamné à 48 ans, et l'ancien ministre de la Justice et député, membre du parti islamiste Ennahda, Nourdin Bahiri, qui écope de 43 ans de réclusion. Pour l'avocate Hajer Chebbi, il faut se mobiliser pour l'appel du jugement.
L'espoir, il est très minime, voire inexistant, mais il est là. Tant qu'il est là, tant qu'on peut le faire, on va se battre jusqu'au bout. On a été honorés de pouvoir les représenter en tant qu'avocats et on continuera à le faire tant qu'ils seront en prison, injustement.
Tous les accusés en liberté ont été également condamnés et pour ceux en Tunisie, ils risquent l'arrestation en fonction de la décision en appel. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
En France, ces circulaires internes aux préfectures qui font couler beaucoup d'encre à Lille, Nantes, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Un document interne à plusieurs préfectures demanderait aux policiers de signaler les étrangers en situation régulière qui auraient été placés en garde à vue. Une forme de fichage révélée dans le département de Seine-Saint-Denis par Les Jours et Le Parisien. Quatre organisations dont la Ligue des droits de l'homme attaquent ce fichage réflexe devant le tribunal administratif de Montreuil, Jules Frémaux.
C'est une des mises en application de la circulaire Retailleau, une procédure de signalement qui ne concerne pas des étrangers condamnés par la justice, mais de simples suspects mis en garde à vue. C'est ce qu'explique Nathalie Théot, présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Sur un simple soupçon qui n'a absolument débouché sur rien, ce qui veut dire qu'on n'a pas considéré qu'il y avait une infraction, il y a un risque de non-renouvellement du titre de séjour de personnes qui sont parfaitement insérées dans la société sur le simple motif de suspicion d'une infraction. Ce qui encourage aussi toutes les dérives, c'est-à-dire de policiers qui pourraient cibler de façon parfaitement raciale parce qu'elles sont encouragées dans la mesure où ça a un débouché procédural.
Selon la LDH, ces signalements remettent en cause le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Au-delà de cette seule procédure, la LDH s'inquiète d'un climat de dérive xénophobe.
Depuis la loi Darmanin, on voit bien qu'on dérive vers une stigmatisation des étrangers, c'est parfaitement xénophobe. On voit qu'il y a une criminalisation des étrangers qui est directement issue de l'extrême droite qui a un projet de faire que la société soit scindée par rapport à la couleur de la peau. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Le préfet de Seine-Saint-Denis dément tout fichage des étrangers. Néanmoins, la LDH a déjà introduit une procédure similaire en Loire-Atlantique et obtenu un jugement favorable.
Jules Frémaux. Cloche, poule, lapin et bien sûr les œufs. En ce dimanche de Pâques, le chocolat se déguste sous toutes ses formes. Mais cette année en France, le passage en caisse s'annonce douloureux. Le prix des chocolats de Pâques a augmenté de 14% excusez-moi, en moyenne, d'après UFC Que Choisir. En cause, les mauvaises conditions météo en Afrique de l'Ouest, région qui fournit 70% des fèves dans le monde. Alors le réchauffement climatique pourrait-il avoir un impact à long terme sur la production de cacao? Élément de réponse avec Pauline Glaise.
Les cacaoyers apprécient la chaleur jusqu'à un certain point. Selon une étude récemment publiée dans Nature, des expérimentations menées au Brésil et en Indonésie ont montré qu'une température plus basse de 7 degrés pendant la saison chaude pouvait accroître la production de 30%. L'hypothèse avancée est que cela aurait un impact sur la physiologie de la plante. En tout cas, selon d'autres données, au-dessus de 32 degrés, les conditions ne seraient plus optimales. Alors l'association Climate Central a calculé combien de jours dépassaient cette limite en raison du réchauffement climatique. Résultat, en moyenne, lors des 10 dernières années, dans les régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, le thermomètre a dépassé les 32 degrés en moyenne 80 jours par an. Sans réchauffement climatique, Climate Central estime qu'il y en aurait eu deux fois moins. Limiter les émissions de gaz à effet de serre est évidemment essentiel. Associer une culture d'arbres qui protège les cacaoyers du soleil peut aussi être efficace, au risque d'augmenter l'humidité, explique l'étude publiée dans Nature. Rappelons que la déforestation liée à la culture du cacao a également un impact sur le climat.
Marseille reprend la deuxième place de Ligue 1 après son carton 5-1 face à Montpellier dans le match du samedi soir. Les Montpelliérains, toujours lanterne rouge de Ligue 1, voient la relégation s'approcher dangereusement après cette 11e défaite consécutive. L'affiche de ce dimanche en Ligue 1, c'est le derby du Rhône. Saint-Étienne, avant-dernier, reçoit des Lyonnais fraîchement éliminés d'Europa League. Coup d'envoi de Saint-Étienne-Lyon à 18h45, temps universel. D'ici là, il est 4h10 à Paris. Merci d'écouter RFI.